C'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour et bienvenue pour la relève. Depuis le temps, vous devez commencer à connaître le programme et le concept. 30 minutes avec un jeune talent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de transfuges de classe, de romans et peut-être même des hommes avec un tout petit H. Mon invité est écrivain. Bonjour Emilio Schiarano.
Bonjour.
On vous a connu avec Jour couché il y a quelques années. On vous retrouve avec un nouveau roman qui s'appelle Crève-cœur et qui est paru chez Belfond. Il faut que je me réveille, je suis un peu lent, je suis un moteur diesel, mais c'est parti. Dans votre précédent roman, donc, qui s'appelait Jour couché, vous décriviez une jeunesse quelque part entre la place de la République et la start-up nation. Et là, le personnage de votre roman, Élise Maldu, ne rêve ni de l'un ni de l'autre. Pour elle, ce sont même deux voies que j'ai l'impression qu'elle n'imaginerait même pas. C'est l'époque qui a changé ou c'est vous ?
C'est les deux, je crois, mais je change avec l'époque. Ouais. On change avec le temps, on grandit, on change de lieu aussi. Ouais.
C'est-à-dire, non mais c'est au-delà de la blague, vous pensez qu'aujourd'hui, justement, ces deux possibilités qui étaient... Oula, il y a Dieu Larsen. Cette possibilité que de rébellion qui passait soit par la politique, soit de la disruption, on va dire, économique, c'est fini pour la jeunesse de ce que vous en observez ?
Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'entre-temps, la pandémie est passée par là et elle a beaucoup changé les perspectives d'une jeunesse qui s'est d'abord... qui a pris de plein fouet déjà toutes les conséquences économiques et sociales de la pandémie, qui était enfermée et qui est sortie de cette période avec des perspectives un peu différentes, à mon sens. Hein.
Bah oui, mais c'est vous qu'on interviewe, hein, tout va bien. N'ayez pas peur. Élise Maldu aussi, elle n'est pas du même monde que vos deux précédents héros.
Et oui, parce qu'elle vient du monde. Alors, on a parfois parlé de la France périphérique. Elle vient d'un village qui s'appelle Crève-Cœur.
Qui existe vraiment ?
Qui existe vraiment.
Ah, moi, je croyais que vous l'aviez inventé.
En fait, c'est
un vrai problème de micro. Allez-y, continuez, ouais. Je m'en occupe. Allez-y.
C'est un village en Picardie. C'est un vrai lieu, un village en Picardie qui s'appelle Crève-Cœur. Et il y en a même deux, il y a Crève-Cœur le grand et Crève-Cœur le petit.
Ah, j'ai cru qu'il y avait le haut et le bas. Non,
là, alors là, c'est le grand et le petit. Moi, je choisis le grand, évidemment, parce que c'est aussi un lieu symbolique. Hein. C'est le lieu du chagrin, le lieu du deuil.
Donc, il est loin de la place de la République et de Nuit Debout, parce que Jour couché était
c'est très loin.
De Nuit Debout.
Oui, en fait.
Allez-y.
Oui, c'est marrant parce que c'est presque comme s'il y avait un diptyque entre un roman très urbain qui se passe dans des classes plutôt privilégiées, de surdiplômés paumés, et un roman qui, à l'inverse, est beaucoup plus proche des réalités de la province française et de jeunesse beaucoup moins fortunée au départ.
Elle est donc Élise Maldu, ce qu'on appelle aujourd'hui un transfuge de classe.
Oui.
Alors par rapport, j'ai aussi l'impression que le récit que la société se raconte, il y a 5 ans, c'était votre précédent roman, il y a 3,
c'était juste avant, 3-4 ans.
On parlait effectivement Startup Nation et de possibilités politiques d'un autre monde. Et c'est vrai que entre-temps, le transfuge de classe est devenu un thème, je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais en tout cas un thème qui occupe une grande place dans le discours. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous avez besoin d'ancrer ce que vous écrivez dans ce qui se passe à ce moment-là, dans ce que vous entendez à ce moment-là, comme un écho du monde? Est-ce que c'est important pour vous?
Oui, je crois que c'est très important. En fait, le défi, c'était d'avoir une approche réaliste classique. C'est pour ça que Flaubert est cité en exergue dans le bouquin, mais cette approche devait être ancrée dans le monde et je ne peux pas m'empêcher d'être un peu comme une éponge ou comme un miroir de ce que j'entends, ce que je vois aussi, et c'est pourquoi aussi il y a eu cette thématique qui s'est imposée. Et en effet, il y a une sorte de mode autour du transfuge de classe, mais cette mode correspond aussi à une narration très optimiste ou très policé de ce que peut être véritablement une existence de transfuge.
Alors, justement, je voulais vous demander qui est cette Élise Maldu. On va parler un peu du roman.
Élise Maldu, c'est une jeune fille qui est au début du roman, à 17 ans, et donc elle vient d'un...
Elle vit chez ses parents, je crois.
Elle vit chez ses parents à Crève-Cœur. Son père est un ancien ouvrier, sa mère est femme de ménage. Elle n'a qu'un rêve, c'est de s'enfuir de chez elle. et on lui parle, ses professeurs lui disent qu'elle pourrait aller en classe préparatoire, et puis elle se dit bah, pourquoi pas tenter cette aventure. Ses parents ne savent pas trop ce que c'est, mais
elle-même n'y a jamais trop pensé.
Elle-même n'y pensait pas, on lui dit tiens, tu pourrais faire ça, et elle y va sans trop y croire. Et puis, c'est le début de tout un parcours avec...
Elle va aller en grande école.
Elle va, oui, et finalement, contre toute attente, elle réussit le concours d'une école très prestigieuse et elle se retrouve là sans savoir vraiment ce qu'elle y fait et quel va être son avenir.
Qu'est-ce qui vous intéressait justement dans... C'était ce personnage qui est un peu malléable, qui est encore à un moment d'incertitude, de d'indétermination.
Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire d'une femme qui se cherche, donc qui est prise dans une machine qui va la propulser quelque part sans savoir exactement pourquoi elle y va, et qui cherche son identité, qui cherche son nom. Elle va changer de nom plusieurs fois au cours du roman. Et puis aussi...
C'est la journée du Larsen.
Et puis qui va aussi faire des rencontres avec des hommes qui vont...
Ceux avec des petits haches.
Oui, voilà,
tout petit H.
Et qui vont aussi beaucoup la changer et l'orienter.
Qu'est-ce qui vous intéressait ? Alors, vous venez d'un peu répondre, mais moi, ce que j'aime bien toujours savoir, c'est un peu le moment où une histoire, une œuvre, un livre en l'espèce, se condense. À quel moment vous avez dit, ça y est, je tiens le truc ? C'est quand vous avez réussi à décrire cette fille, je ne sais pas, vous l'avez vue, le moment où vous avez quasiment écrit le plan, à quel moment vous dites ça, c'est le bon fil et je peux y aller ? J'imagine que vous avez fait plusieurs tests entre les deux livres.
En fait, il y a eu des textes avant ce Crève-Cœur, il y a eu quelques romans qui n'ont pas trop abouti, et par contre, il y avait en noyau une histoire que je voulais raconter d'une jeune fille.
Toujours.
Qui... Oui, c'était l'histoire à la base où le germe narratif était une jeune fille qui travaille dans une chocolaterie pour payer ses études. C'était vraiment le point de départ obsessionnel. La chocolaterie pour payer les études. Et ensuite, ça s'est développé et ça s'est cristallisé au moment de la pandémie. Où là, je me suis dit, je tiens mon histoire. Il faut que ça parle aussi de cette époque-là. Je ne vais pas faire semblant que ça n'a pas existé. Mais je tiens mon histoire, et c'est parti.
Et elle est à la chocolaterie, si je me souviens bien, pendant ses vacances de classe prépa.
Oui.
C'est ça, hein ?
Oui.
Est-ce que, ça fait deux fois que vous parlez de, vous vouliez à tout prix avoir un personnage féminin.
Oui.
Ça n'aurait pas pu être un garçon ?
Ah bah non.
Bah, ah non.
Bon, non, c'était pas possible, parce qu'on m'a dit que mon premier roman était trop masculin. Donc là, je devais répondre,
c'était pour répondre
aux
à ça.
Attaques féministes qui étaient assez légitimes, en fait, parce que après coup, je me suis rendu compte qu'il est vrai que j'avais fait un livre très masculin. Mais bon, à part cette réception dont j'aurais pu aussi ne pas l'écouter, j'avais vraiment envie de me glisser dans la peau d'une femme.
Et vous choisissez le L plutôt que le jeu, j'imagine que c'est pas un hasard. C'était difficile, ça aurait été difficile d'écrire. Ça aurait sonné faux, par exemple, si vous aviez écrit jeu en étant. Après tout, vous avez cité tout à l'heure Flaubert, il a dit que Madame Bovary s'était lue. Est-ce que vous auriez pu dire Élise Maldus, c'est moi ?
Bah, bien sûr, c'est moi, c'est complètement moi. Mais par contre, le L permet cette prise de distance. Ce léger
vous avez essayé au jeu ou pas du tout ?
J'y ai pensé, mais en fait. J'aimais bien cette légère distance qui est permise par la troisième personne. En
fait. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même d'avoir beaucoup de romans au jeu parce que le roman doit être vrai.
On doit se couler sans médiation. Mais moi, j'aimais bien justement cette distance-là qui fait partie de mon point de vue. C'est qu'on est, un tout petit peu de marge de manœuvre ou d'interprétation par rapport à l'histoire qui est racontée.
Alors au début de Crève-Cœur, je crois que vous vous amusez avec les standards du roman du début du 19e, pardon, du 9e siècle. Alors vous êtes plutôt Zola, Maupassant, Balzac, Flaubert ?
Moi je suis Flaubert, hein, à fond.
pourtant, quand vous la décrivez dans sa famille, c'est encore un autre, c'est Hugo, c'est quasiment Cosette que vous nous... Je la trouve très Cosette, moi.
Oui, elle est un peu...
Les parents, vous l'avez chargée au début.
Oui, et encore. C'est vrai qu'il y avait presque un côté, pas pastiche, mais en tout cas de jeu, de se raccrocher à une tradition romanesque, qui est vraiment la tradition française réaliste du 19e, qui nous a donné tous ces auteurs et de l'ancrer dans le monde contemporain.
Et ça vous a obligé à travailler votre écriture ? Vous avez travaillé pour oui. arriver... Alors, ce n'est pas un pastiche, on ne peut pas dire ça parce que vous n'êtes pas dans le pastiche, mais vous avez travaillé pour retrouver un rythme, des phrases qui auraient pu être écrites, qu'on n'écrirait peut-être pas forcément aujourd'hui ?
Oui, après, je n'avais pas forcément ces standards stylistiques en tête. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de travailler le phrasé, le rythme, avec une certaine ampleur de la phrase, avec une élasticité aussi qui vient un petit peu de l'italien également, qui est une de mes deux langues maternelles. Et là, j'ai eu du temps. Bizarrement, j'ai beaucoup de temps pour écrire.
Moi aussi.
Donc, j'ai eu du temps pour faire un petit peu d'expérience stylistique, d'où aussi peut-être une légère évolution de mon style par rapport au précédent.
Et je reviens un peu à ce que je disais avant parce que j'ai raté ma question, mais c'est pas grave. Vous êtes plutôt, elle est plutôt une arrière-petite fille d'Emma Bovary ou. Moi, je pensais beaucoup aussi à Une vie de Maupassant. On ne peut pas s'empêcher
aussi,
de penser
sûr,
à cette femme dont j'ai oublié le nom.
Et quelques... Oui, il y a du Maupassant aussi. Ouais.
C'est des auteurs que vous aimez ou c'est juste parce que là, ça vous, c'est ce que vous dites, que vous avez envie d'écrire quelque chose qui retrouve un peu l'esprit de cette époque-là.
Je pense que c'est venu comme ça, hein, parce qu'ils font partie de ma bibliothèque mentale, mais au même titre que Virginia Woolf, qui est d'ailleurs même citée à l'intérieur du livre comme une référence pour le personnage qui, à un moment donné, découvre d'autres horizons et qui lit de la littérature moderniste. Et donc, toute cette bibliothèque-là a été mobilisée, mais sans trop que ce soit un programme, hein, ça s'est fait comme ça.
Alors, vous parlez aussi de l'époque, pas seulement du Covid. On parle par exemple de revenge porn.
Oui.
Il y a du revenge porn dans votre livre. Il y a le Covid, il y a l'impact du Covid sur la jeunesse. Vous, qu'est-ce que quand vous êtes professeur par ailleurs, quand vous n'écrivez pas, vous me dites si je me trompe.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez vu comme impact sur la jeunesse du Covid ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Bon, par exemple, je peux le dire, hein, c'est quand on venait ici il y a 2 ans, qu'il y avait la queue parce qu'il y avait des distributions alimentaires. Quand j'y repense, j'ai des frissons. C'était quelque chose que je pensais jamais voir de ma vie. Des jeunes qui faisaient la queue pour manger parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'était la désocialisation totale, le fait que les jeunes soient complètement abandonnés et qu'en même temps, on continue d'exiger d'eux des standards très élevés en termes d'attente, de formation, de résultats, de travail. Donc, qu'on fasse semblant de rien. Et qu'en même temps, ils se retrouvent complètement isolés, précarisés également, comme vous l'avez souligné.
Vous avez fait cours en Teams ?
Alors, j'ai tout fait, le distanciel, le présentiel, l'hybride, les cours Schrödinger, j'étais là, j'étais pas là. Alors, ce qui m'a frappé aussi, par contre, positivement, c'était la capacité de rebond des jeunes qui, très très vite, s'adaptaient, revenaient et qui sont passés à autre chose aussi, heureusement. Donc ça c'était quelque chose de bien
parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas en tout cas je trouve qu'on a peu demandé aux professeurs là vous avez pu voir l'impact l'utilité de la classe en tant qu'espace lieu où tout le monde est ensemble après tout devant un écran les gens sont devant vous qu'est-ce que ça change quand il y a la classe il y a un truc qui se passe
il y a l'affect, il y a l'échange humain il y a toutes les...
Moi j'ai fait des émissions de radio à Teams hein. C'est pas pareil par exemple
En fait il y a tout l'échange humain tout ce qu'on va se dire autour du cours mais qui est fondamental pour que ça se passe et tout ça se perdait un petit peu dans le distanciel. Et j'ai essayé aussi de parler un petit peu de ça.
Elle est à Londres à ce moment-là. Quand ça lui arrive, elle travaille dans un café.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est avant, si je me souviens plus si c'est avant ou après qu'elle découvre la vie nocturne. C'est avant, après. Hein.
C'est un peu après. Oui.
Donc là, elle se retrouve seule et elle ne va pas bien.
C'est sûr que...
Cette pauvre Élise Maldu.
Il y en a d'autres. Il y a vraiment des personnes qui se sont retrouvées coincées à l'autre bout du monde, isolées, confinées, sans personne. Donc, c'était pas évident.
On va pas faire de la psychologie, mais ce que votre livre raconte, c'est finalement l'histoire d'un personnage très passif qui regarde sa vie. En tout cas, pendant une bonne partie du livre.
Elle est ambivalente parce qu'en même temps, elle ne cesse de prendre des initiatives. Mais à chaque fois qu'elle choisit une voie, cette voie finit par devenir une impasse. Et elle essaie de rebondir et en fait on a l'impression qu'elle va se tromper au fur et à mesure et entrer dans une spirale. Je veux pas trop révéler la suite, mais ça va être difficile, quoi. C'est pas toujours évident.
Alors, vous venez de parler d'impasse, c'est marrant parce que moi, la question d'après que j'avais écrite, c'est que moi, l'impression que j'avais plutôt, c'est quelque chose, et peut-être quelque chose qui caractérise le tranchus de classe et la violence que vit le tranchus de classe, violence avec beaucoup de guillemets, c'est qu'à un moment donné, comme on dit dans le langage, pour elle, la voie est toute tracée et finalement, elle réfléchit jamais parce que voilà, ça marche, vas-y, continue et puis pose-toi pas de questions. T'as trouvé la bonne école, t'as trouvé le bon garçon, t'as trouvé le bon mari, continue.
Mais il y a de la violence symbolique, effectivement, mais dans le livre aussi, elle est décrite, dans le regard qu'on porte sur elle, comment elle est traitée, objectifiée.
L'histoire du revenge porn, c'est ça, c'est sur elle que ça tombe, comme
et
par hasard.
Et puis aussi, comment il y a une violence de classe et une violence symbolique qui s'abat sur elle, dès lors qu'elle est identifiée comme une transfuge de classe. Et ensuite, on lui assigne finalement un destin en tant que...
Ah, c'est ça, la voie est tracée, elle n'a pas à conduire finalement.
C'est ça. Et donc, la question que pose le livre aussi, c'est au-delà de cette voie tracée, est-ce qu'on peut dérailler, finalement, de ces rails qui sont tout faits pour un destin social ?
Mais est-ce qu'elle est désirante de quelque chose ?
Oui.
Ouais. Mais alors, de quoi ?
Alors, je ne veux pas le dire parce que c'est à la fin du livre.
Oui, mais avant, justement, avant.
À la fin, je pense qu'elle désire ce
qu'on
lui dit.
Ah oui, ça, à la
fin,
c'est clair.
À la fin, effectivement...
C'est l'émancipation, votre roman, c'est l'histoire d'une émancipation.
Elle désire ce qu'on lui dit de désirer, finalement. Elle tombe un peu dans le panneau, mais comme beaucoup de gens parmi nous.
On parle de désir. On va parler, justement, lors de la vision du jeune homme hétérosexuel dans votre livre. Ils ne sont vraiment pas terribles.
Ah,
vous les connaissez, ceux-là ?
Ah oui.
Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre.
Ah non, c'est sûr. Même ceux qui ont l'air sympas, en fait, au fond, ils sont un peu craignos, quoi.
C'est vos copains, c'est...
Ah bah, j'ai fait beaucoup d'observations de terrain.
C'est,
hein,
c'est ce que vous voyez dans les classes. C'est aussi violent les rapports entre
pas
les
seulement,
et les filles.
Pas seulement dans les classes, parce que dans les classes, finalement, l'espace est assez neutralisé, mais en dehors.
Est-ce qu'elle écoute de la musique ? Attention, c'est la transition la plus fine que j'ai jamais faite.
Ouais, carrément, en plein.
Ben nous aussi, on va en écouter maintenant.
Thank you.
c'était bien une femme qui chantait, mais elle s'appelle Silly Boy Blue et elle chante The Sparks.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors, on est toujours avec Emilio Sciarrino. Attendez, je me trompais de nom, parce que ça, c'est ma spécialité, Sciarrino. Vous êtes l'auteur de Crève-Cœur, un roman paru il y a quelques semaines chez Bellefond, qui raconte le fabuleux destin de... Ça aurait pu s'appeler comme ça, le fabuleux destin d'Élise Maldu.
Mais j'ai failli l'appeler comme ça, après j'ai changé.
Ah, je ne savais pas. Alors, on parlait de transfuge de classe, parce que c'est une jeune fille du nord de la France, d'Amiens.
Ouais.
Une ville qui vous est chère et qui est chère au président de la République. Et alors, la figure de transfuge de classe, comme je disais tout à l'heure, elle est peut-être un peu nouvelle, mais quand on y réfléchit, dans le roman du 19e, elle n'est pas du tout nouvelle. De Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir à Lucien Rubempré chez Balzac, il y a toujours eu dans la littérature des personnages qui viennent à Paris réussir.
Bien sûr, mais c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était de traverser différents milieux sociaux par la fiction, pour le coup, et de décrire aussi les environnements, les atmosphères, les manières de parler, de s'habiller.
Est-ce que c'est ça qui est intéressant dans le transfuge de classe pour un romancier? Vous n'êtes pas sociologue, vous êtes romancier, vous le revendiquez.
Oui, oui.
C'est que le transfuge de classe, il permet de définir, de raconter plusieurs milieux.
Ah bah c'est un fil conducteur génial, hein, d'un point de vue vraiment narratif, d'un point de vue de la stratégie narrative, c'est ce personnage, ce qu'on peut balader d'un endroit à un autre et qui nous sert de prétexte pour regarder plein d'univers, plein de facettes de notre monde. Donc,
est-ce qu'il dit aussi comment fonctionne la société?
En quelque sorte, il nous montre comment un groupe peut exclure ou inclure, ou comment fonctionnent des logiques grégaires, des logiques de ségrégation. Donc il peut permettre de jeter aussi un regard un petit peu extérieur sur des groupes. Ça, c'est aussi très classique, mais intéressant.
Alors vous qui avez des lettres, hein, parce que vous êtes prof de lettres, donc vous avez dû lire un peu. La société
peu, ouais.
D'aujourd'hui par rapport à celle du 19e, vous trouvez qu'elle a changé? Ou qu'il y a une espèce de commentaire journalistique un peu feignant qui est de dire c'est toujours pareil, Paris est toujours Paris, un ou deux Paris, mais bon, c'est compliqué, c'est fermé. Vous avez l'impression que, en écrivant ce livre-là, vous avez eu l'impression que le fonctionnement social avait changé?
Alors, de manière générale, je ne saurais pas dire, parce que je ne suis pas sociologue, mais ce qui est marrant en écrivant ce roman, c'est que finalement, je retrouvais quand même beaucoup de logiques classiques du 19e siècle en termes de rigidité de classe, d'écart esthétique, d'écart de normes entre des groupes. La différence que je voyais peut-être, c'était la possibilité d'accéder rapidement, de passer rapidement d'un monde à un autre.
Ouais, il y a des espèces de porosité aujourd'hui qui sont un peu prévues, et l'école...
Oui, et puis des accélérations qui sont possibles à travers, peut-être pas seulement l'école, mais aussi les réseaux sociaux, à travers les artifices de présentation de soi, les stratégies de narration de soi, qui peuvent aller très très vite et qui peuvent tout aussi rapidement conduire à la déchéance sociale également. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé.
Ça, c'est la déchéance sociale, c'est Rubempré, c'est
ouais.
Violent.
Et ça peut arriver tout d'un coup, quoi.
Ouais. Moi, j'ai pas fait d'études de lettres, mais le transfuge de classe, il me semble, au 19e, c'est plutôt un garçon.
Oui.
Il m'a semblé que les rares exemples de femmes transfuges de classe qu'on a au 19e siècle, c'est par le sexe. C'est Nana dans Zola. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Est-ce que vous en avez d'autres?
Il m'en vient pas à l'esprit actuellement, mais il est vrai que dans la littérature du 19e, la femme, elle a aussi un...
Le mariage, éventuellement.
Elle est quand même assez limitée à quelques fonctions, alors qu'ici, c'est aussi quand même un signe des temps, on a un personnage qui va pouvoir déployer aussi son potentiel intellectuel, son potentiel de séduction également, hein, mais qui elle peut agir et puis elle peut avoir de l'ambition pour faire quelque chose de sa vie.
Si j'en juge par les deux romans, celui-ci donc Crève-Cœur et puis le précédent dont le nom m'échappe mais ça va me revenir tout de suite, Jour couché, je me trompe toujours. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la fin de l'adolescence aussi, c'est cette période d'indétermination, elle vous intéresse d'un point de vue romanesque?
Ça m'intéresse les romans de formation, en fait. C'est sûr que c'est quelque chose qui me plaît. Les deux sont des romans de formation. Donc j'aime bien ce moment où effectivement il y a la perte des illusions, le désenchantement, la découverte du réel. La petite différence, c'est que dans Crève-Cœur, on avance un peu vers l'âge, vers la maturité. Il y a aussi un petit...
C'est vous-même qui avancez en âge.
Ah bah c'est aussi...
Les personnages avancent avec vous.
Peut-être aussi, hein, peut-être aussi.
Est-ce que le prochain texte sera aussi le cas, parce que vous travaillez peut-être déjà sur un prochain roman ?
Alors oui, et en fait, bizarrement, comme je suis très contradictoire, le prochain texte s'éloigne de...
De l'adolescence ?
S'éloigne des thématiques sociales... donc je ne sais pas encore exactement parce que c'est toujours en gestation, mais il aurait tendance à prendre un petit peu de distance de, de cette thématique-là. Non, j'en ai jamais assez. Hein. Je vais y revenir un jour ou l'autre, mais parfois on peut faire aussi des petits écarts narratifs.
Alors vous êtes dans le Nord, je suis un peu obligé de vous en parler d'Édouard Louis.
Ah bah bien
parce
sûr.
Que c'est quand même la figure de la, c'est notre de la littérature contemporaine de nordiste. Édouard Louis a fait il y a je crois 2 ans maintenant des déclarations qui disaient que la fiction c'était fini, qu'on pouvait plus écrire écrire un roman qui parle de faire de la fiction, c'est plus possible. Alors qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous aimeriez débattre avec lui? Qu'est-ce que vous lui répondriez?
Non, je n'aimerais pas forcément débattre avec lui, mais en tout cas dans ma réponse elle a été toute faite, c'est-à-dire que moi je crois encore au pouvoir de la fiction en ce qu'il peut explorer le réel et raconter des choses au-delà de l'expérience autobiographique. Si on était limité seulement à notre vie, ce serait triste.
Et oui, surtout en littérature.
Ouais.
Et ouais. Ce pouvoir de la fiction, il consiste en quoi? Il permet d'enrichir la vie, comme on dit aujourd'hui. C'est comme mieux que le web 2.0, la littérature, c'est une vie 2.0.
Ah bah ça l'a toujours.
J'ai honte de cette image, mais bon.
Mais ça l'a toujours été. C'est ce qui nous permet aussi de vivre d'autres vies que la nôtre.
Et c'est nécessaire, ça?
Ah, je crois, oui.
Qu'est-ce que vous pensez que, par la littérature, vous arrivez à dire sur l'expérience de transfus de classe qu'un sociologue ne verra pas?
Ben, je pense que je ne suis pas en concurrence
non,
avec
non,
la...
Non, non, ce n'est pas la concurrence. C'est pour essayer de voir quelle est la spécificité de l'approche littéraire. C'est peut-être vous accédez, par exemple, au monologue intérieur d'une transfus de classe. Parce que lui ne pourra jamais, le sociologue, par exemple.
Mais je crois que c'est tout l'aspect de l'émotion, de l'empathie qu'on a à travers un texte littéraire, en fait. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à un personnage, on va se projeter aussi, ou éventuellement éprouver, à l'inverse de l'aversion, de l'antipathie. C'est tout cet aspect affectif qui est au cœur de la littérature, il me semble.
Et c'est un moyen de connaître le monde, pour vous, les littératures?
Oui, et l'affect aussi.
Vous avez eu des réactions de personnes qui ont eu ce genre de vie, qui sont venues vous voir?
Beaucoup. J'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles s'identifient au personnage, beaucoup de personnes pas vraiment de Crève-Cœur, mais enfin de ce coin-là, qui me disent qu'elles se retrouvent complètement dans la peinture de ce monde-là. Ça m'a beaucoup surpris parce que je ne savais pas du tout quelles seraient les réactions des lecteurs ou des lectrices. Et finalement, j'ai eu beaucoup d'identification, de projection.
J'ai peur qu'on ait une vision un peu noire de votre livre et de votre personnage. Je tiens quand même à dire que c'est l'histoire d'une émancipation. On ne dira pas par quoi elle passe, mais il y a une émancipation. Je tiens à le dire. Au début, je disais tout ce qui avait changé avec ce nouveau roman. Avec Nuit debout qui était finie, la Startup Nation dont on ne parlait plus. Ce qui reste intact pour vous, c'est l'envie d'écrire?
Oui, bah ça.
Toujours elle est
persiste,
là toujours
hein. Ça persiste.
Elle ne partira pas, vous croyez?
On va essayer de la garder bien au chaud.
Ça vous apporte quoi?
De survivre, tout simplement.
Carrément?
Oui.
Ouais, je pensais pas que c'est aussi nécessaire que ça.
Je crois.
Bon, bah écoutez, on va vous lire alors, hein. Parce qu'on ne devrait pas avoir un morceau de la conscience.
Voilà.
Il s'appelle Emilio Scariano, en fait c'est le meilleur argument de vente ça. Il s'appelle Emilio Scariano, ça s'appelle Crève-Cœur, c'est un roman, c'est chez Belfond, et si vous voulez qu'il survive, il faut le lire.
Exactement.
Et il faut l'acheter. Voilà, merci beaucoup d'être passé par le studio.
Merci.
C'était La Relève, elle était présentée par Christophe, cette réalisation impeccable était évidemment signée à l'ISOM, dont c'était le retour. Vous pourrez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le site web de Radio Campus Paris. En attendant, c'est le programme musical jusqu'à 19h. À 19h, c'est la première des estivales. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une dernière de La Relève de la saison. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Merci de nous avoir écoutés.